Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Il est 9h09, Sonia De Villers, votre invitée a passé la deuxième nuit des émeutes à Nanterre.
Et il en a publié dès le lendemain matin à l'aube un papier dans Le Monde. Bonjour Luc Brunner.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Monde, vous avez été directeur de la rédaction. Il se trouve que le terrain vous manquait, ça vous brûlait de retrouver ces nuits sans sommeil, les papiers écrits dans des cafés ou sur ses genoux dans un abribus. Et vous voilà revenu justement au cœur des banlieues, sachant que vous avez été l'un des premiers journaliste à faire de la banlieue, des quartiers, comme on dit aujourd'hui, un sujet à part entière. Qu'est-ce que vous avez tiré de cette nuit à Nanterre ?
J'en ai tiré le sentiment de très douloureux, même d'un basculement et d'un niveau de violence extrême, avec des émeutiers extrêmement déterminés, ils étaient nombreux, avec un niveau de dégradation assez dingue, avec des policiers qui ont tenu pendant un moment et qui ont dû reculer, qui était probablement une bonne décision d'un point de vue policier pour éviter qu'il y ait d'autres morts, on en était là, je pense. Et donc j'en suis sorti avec ce sentiment d'être confronté à une violence extrême, avec des jeunes qui exprimaient à leur façon une rage terrible. Voilà, j'ai trouvé que c'était des moments qui me ramenaient évidemment à d'autres reportages que j'ai pu
à
faire
2005,
il y a 18 ans.
Et en 2007.
En 2007,
après Villiers-le-Bel. Alors justement, qu'avez-vous appris au fur et à mesure de ces reportages? C'est-à-dire, comment le reporter se glisse sur le terrain? Est-ce qu'il se fait reconnaître? Est-ce qu'il se fait oublier?
Alors, ça dépend vraiment des situations. Là, on est dans une situation de crise, on est dans un moment de tension extrême et les contacts sont difficiles à faire avec des jeunes, des individus qui sont là pour une durée déterminée, pour casser. Donc, dans ces moments-là, je choisis plutôt la discrétion. Au début, sur Nanterre, je travaillais avec un photographe et c'est vrai qu'en cours de nuit, j'ai choisi de travailler seul pour être moins visible, en fait, et donc pour pouvoir circuler dans le quartier en essayant de garder un minimum de sécurité pour ne pas être repéré et pour observer. C'est vrai que c'est des moments où les faits sont tellement forts, tellement graves, qu'on est d'abord là pour être les yeux. La notion d'envoyé spécial, moi j'aime bien l'idée qu'on ait les yeux, les oreilles de nos lecteurs, de nos auditeurs. C'est le moment voilà d'observation. Et il y a d'autres moments quand on est reporter où on est là beaucoup plus pour recueillir la parole, pour entendre, pour parler pendant des heures avec des mères, des pères, avec des enseignants, avec des jeunes. Mais c'est vrai que ce moment très particulier des émeutes, c'est un moment où on est d'abord dans l'observation de ce qui se passe pour raconter.
Et le Syndicat National des Journalistes vient de publier un communiqué soulignant l'extrême violence qui s'est abattue aussi sur les journalistes. Vous avez eu peur?
Oui, j'ai eu peur, oui, parce que dans la cité Pablo Picasso, au milieu de la nuit, il y a plus de policiers, en tout cas ils sont plutôt à la périphérie, ils sont eux-mêmes dans une situation qui est extrêmement difficile, et les gens avec qui j'avais discuté dans l'après-midi et dans la soirée m'avaient tous alerté en disant ne restez pas en tant que journaliste, ça va être dangereux. Voilà, donc oui, j'ai eu peur, effectivement, et notamment à un moment où je m'approche le plus près possible des scènes de violence sur l'avenue Pablo Picasso, là les policiers arrivent derrière moi, je ne les avais pas identifiés, pas vus tout de suite, et donc les émeutiers se précipitent vers les policiers qui repartent, ils sont en voiture, moi je suis à pied, donc je repars en courant, j'ai pas tellement d'autres choix, et c'est vrai que Pablo Picasso c'est une cité où il y a beaucoup de trafic de drogue, et donc il y a des guetteurs, et donc il y a une forme d'organisation, c'est un des points qui m'a vraiment frappé dans ces émeutes, c'est le niveau de détermination et d'organisation des émeutiers, et c'est vrai que là j'ai eu très peur parce que j'ai senti que il fallait pas que je sois repéré et que je réussisse à redisparaître pour redevenir le plus invisible possible.
Alors il y a eu vos reportages en 2005 et vos analyses publiées dans Le Monde, il y a eu ceux de 2007, il y a eu le prix Albert Londres justement pour cette série de papiers sur les jeunes et la banlieue. Il y a eu un livre publié dans la foulée en 2010 qui s'appelait La loi du ghetto, enquête sur les banlieues françaises. Donc là, c'était justement le reporter qui avait besoin d'approfondir et de donner une cohérence, une sorte de colonne vertébrale à ce travail qui avait été effectué sur le terrain. Dans ce livre, Luc Brunner, vous vous interrogez forcément sur le rôle des médias à l'époque, hein, donc il y a 17-18 ans, sur le rôle des médias dans ces moments-là. Vous pointez notamment à l'époque, et vous allez nous dire si vous trouvez que c'est le cas encore aujourd'hui, l'extrême dépendance des journalistes à l'égard du ministère de l'Intérieur, des syndicats de police, l'extrême dépendance des journalistes vis-à-vis de leurs sources.
Alors j'ai le sentiment que c'est assez différent. Je le dis avec prudence parce que j'ai sans doute pas assez de recul. Et 2005, le scénario n'a rien à voir du point de vue du traitement par la justice et par le pouvoir politique de la mort de Ziad Ebouna qui meurt électrocuté après une course poursuite parce que assez longtemps, voilà, Clichy-sous-Bois, assez longtemps, on est dans un discours des autorités de négation du problème. On est dans un discours qui n'a rien à voir avec celui qu'on a eu très vite. Alors. On l'a eu très vite, le discours des autorités de doute par rapport à la version policière initiale, parce qu'il y avait une vidéo, ça change tout. Donc je fais attention de ne pas généraliser à partir du cas particulier de Nanterre, où une vidéo change tout, parce que la vidéo, elle est incontestable et elle montre bien que le discours initial des policiers n'est pas celui de la réalité et qu'il y a eu, alors je reste prudent parce qu'il y a une enquête pénale, mais il y a eu tir volontaire des policiers dans une situation qui n'était pas celle décrite. Donc, sur la question du rapport aux sources policières, elle reste posée parce que les sources policières sont des sources hyper importantes pour les journaux et que donc, elles peuvent donner une première coloration, une première vision à des faits. Le changement majeur, me semble-t-il, c'est d'une part l'apparition de ces vidéos qui existaient beaucoup moins à l'époque, et c'est d'autre part la place prise par les réseaux sociaux, notamment Snapchat et TikTok, qui font que des informations circulent de façon beaucoup plus rapide dans les quartiers et peuvent contrebalancer la parole médiatique, j'allais dire, plus traditionnelle.
La parole médiatique et la parole institutionnelle, évidemment. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que dans vos papiers de 2005 que je me suis procuré, les papiers de 2007 qu'avec mon équipe on a relus, il y a quelque chose qui revient sans cesse, c'est de dire qu'il peut y avoir des effets de loupe médiatique, il peut y avoir des choses qui sont totalement dénaturées, déformées, mais qu'au fond ça ne rompt jamais l'isolement médiatique dans lequel se trouvent ces quartiers. C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Je crois, on en parlait avec votre collaborateur juste avant d'entrer, il n'y a pas de figure médiatique qui émerge de cette crise-là à ce stade en 2023. Il n'y a pas de personnalité qui incarne ce mouvement et qui serait capable de devenir porte-parole. Or, les mots sont essentiels en démocratie. À quel moment on est capable d'avoir quelqu'un qui porte un discours, même sur les gilets jaunes, quelque part, à un moment donné, il y a eu des figures qui ont émergé, qui ont formulé des choses, qui ont exprimé. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce que les mots ne sont pas là. Alors sans doute aussi parce que le profil des émeutiers, c'est un profil de jeunes adolescents, de jeunes hommes. Je pense que c'est très important d'insister sur cet aspect-là. Ce sont des hommes, des garçons, 14, 15, 16, 17 ans, et donc avec une capacité d'élaboration qui est celle d'adolescents de leur âge. Et donc il n'y a pas de mots MOTS pour raconter la situation, il n'y a pas de porte-parole. Et donc la dimension politique de cette crise, elle est très peu exprimée au final.
Et ça veut dire surtout que, l'expression horizontale des réseaux ne suffit pas à pallier l'incarnation.
Surtout que c'est une expression très bas de gamme. Je veux dire, ce sont des images qui circulent, souvent des images de violence. Ça peut induire une forme de compétition entre quartiers. On l'avait eu en 2005 et on avait accusé, je crois à juste titre, la télé notamment de publier des sortes de palmarès tous les soirs pendant trois semaines du nombre de voitures brûlées, qui était une forme d'incitation. Là, je crois que les médias ne sont pas tombés dans ce piège-là. En revanche, les réseaux sociaux et par la liberté donnée à chacun des utilisateurs de publier la vidéo de la voiture ou du bâtiment qui brûle, en fait, a eu cet effet démultiplicateur, j'en suis convaincu.
Et dans La loi du ghetto, ce livre que vous aviez publié en 2010, il y avait vraiment, vraiment, alors le fil rouge, c'était la présence de l'adolescence, le poids démographique des adolescents, les codes adolescents qui, au fond, avaient pris le contrôle de ces quartiers. Et il y avait un premier chapitre sur la mort et le rapport à la mort. Quelque chose qui était omniprésent.
Ce sont deux points qui m'ont fasciné, effectivement. C'est comment des jeunes garçons prennent le pouvoir, voilà, et prennent l'espace public. Je discutais hier avec le maire de Corbeil-Essonne qui me racontait que sur sa ville de 50 000 habitants environ, il y avait 300 individus qui sont passés à l'acte, ce qui est beaucoup. Mais c'est 300 sur 50 000 habitants. Et ces 300 personnes, quelque part, les 50 000 habitants, pendant plusieurs jours, n'arrivent pas à reprendre la main. Alors certains sont peut-être solidaires, probablement dans une certaine mesure, mais ils le sont un temps, et après je pense que la question des dégâts prend le pas sur le reste. Mais donc on n'arrive pas à reprendre la main sur ces jeunes garçons qui sont dans une logique de destruction liée à, on connaît bien l'histoire, au sentiment d'être victime de discrimination et de violence de la part de la police. Donc c'est vrai que c'est un premier point fondamental. On est face à une crise éducative probablement très grande pour ces jeunes garçons. Qui me paraît essentiel. Le fait que la notion du ghetto, c'est le fait d'avoir à la fois un enfermement qui vient de l'extérieur, c'est les processus de ségrégation, et c'est aussi la construction de lois intérieures et de lois qui sont différentes du fonctionnement du reste de la société. À Corbeil-Essonne, le maire me racontait aussi que sur un tag, il avait écrit « La loi, c'est nous ». Et donc, il y avait une forme de prise de pouvoir qui allait jusque-là, et avec des mécanismes de contrôle qui sont insuffisants.
Il est 9h19, vous écoutez France Inter avec Luc Bronner, grand reporter au Monde. On va revenir à Aulnay-sous-Bois, 18 ans après 2005. Là aussi, ça a brûlé.
Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je les ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je les ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Y'a peut-être quelqu'un qui s'est suicidé dans la baraque où tu vis. Y'a sûrement quelqu'un que tu connais qui pleure pendant que tu ris. Les animaux comprennent les hommes et peut-être pas le contraire. Le premier à voir serrer ta mère, c'est peut-être pas ton père. Je sais bien que parfois tu mens car t'es pas sûr de toi. Et que pendant que je parle avec toi, quelqu'un parle sur toi. Les diamants sur ta poitrine valent combien? Sache que les gens qui veulent ton cœur sont pas toujours les gens qui veulent ton bien. Pourquoi les gens pensent te connaître avec 2-3 questions? Pourquoi les gens que tu aimes sont pas toujours les gens que tu crois qu'ils sont? Un peu décalé, je pense. Tu sais que je suis parisien depuis le début du son, je fais que de parler des gens. Sur la rive droite, je vais m'ennuyer l'hiver. Sur la rive gauche, je vais m'ennuyer l'été. La ville m'a fait gagner des passe-droits illimités, mais m'a fait perdre mon immunité et mon humilité. Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu, ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je les ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu, ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je les ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. T'es sûrement pas le premier que Panama usait. T'es sûrement pas le premier que ta femme a sucé, mais tu l'aimeras quand même. Tu lui dis qu'avant elle, t'as connu que 5 meufs. Si tu lui disais le vrai chiffre, elle tomberait en syncope. Trop d'ego, trop de fautes. Y'a tellement de gens que j'aime dans la vraie vie, mais que je déteste sur les réseaux sociaux. Arrête de faire le parrain, personne t'en voudra de pas être un voyou. On t'en voudra de faire le voyou si t'en es pas un. Sommeil inexistant, entre la play et l'ordi. Je me réveille d'une sieste où j'ai à peine dormi. Il est 6:30, perdu dans la rue. Comme un chèque en bois, je marche vers et au mur. Et je vois des gens bourrés, au 53, de la rue Quincampoix. Je pense à ma meuf, Miro le bif. Je suis censé être un mec de test, et là j'achète des jus bio à 9 euros le litre. Je rêvais de quitter le quartier et remplir mes comptes. Maintenant que je suis devenu un bobo, je crois que j'ai honte. Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu, ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je les ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu, ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je les ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre.
Quatre saisons par Dinos.
France Inter, le 7-9-30, l'interview de Sonia De Villers.
Armés de cailloux, une centaine de jeunes s'opposent violemment aux forces de l'ordre dans la cité de la Forestière, à la limite de Montfermeil et de Clichy-sous-Bois. Cette fois, la colère de certains habitants semble avoir été déclenchée une heure plus tôt dans une mosquée du quartier. Les fidèles présents sur les lieux accusent les forces de l'ordre d'avoir lancé du gaz lacrymogène dans le bâtiment pendant la prière du Ramadan.
On a entendu des gens crier à l'extérieur de la mosquée et il y a eu des tirs dans la mosquée de gaz lacrymogène. Donc les femmes ont été coincées à l'intérieur de la salle de prière dans laquelle on est en ce moment. La porte était fermée, ils n'arrivaient pas à sortir et une heure après, on sent encore l'odeur du gaz lacrymogène.
Luc Bronner du Monde est mon invité. En 2005, il couvrait les émeutes à Clichy-sous-Bois. La chronologie était extrêmement différente. Le temps, en réalité, la gestion du temps et les effets du temps très différents d'aujourd'hui en 2023, Luc Bronner. Il y a notamment cet épisode clé de la mosquée que vous pouvez peut-être rappeler.
Oui, parce que Clichy-sous-Bois, il y a après la mort des deux enfants, il y a de nuits extrêmement violentes, et puis ça commence à se calmer, notamment parce qu'il y a des médiateurs qui interviennent. Et là, dans un moment de maintien de l'ordre, il y a une grenade lacrymogène qui est tirée à proximité de la mosquée au moment où les parents sont présents. Et c'est vrai que ça va recréer une émotion extrêmement grande, et ça va en fait contribuer à un moment clé, c'est-à-dire la propagation. On va sortir d'une émeute et de violence urbaine qui concerne seulement Clichy-sous-Bois et Montfermeil, et ça va s'étendre à Aulnay, à Drancy, à toutes les villes autour de la Seine-Saint-Denis, et puis ensuite à l'ensemble de l'Île-de-France, et puis après, pour une part, à l'ensemble des métropoles françaises.
Et alors, il y a là un épisode que vous relatez en 2005, que vous rappelez en 2007, dont vous reparlez aujourd'hui. Alors, il se trouve que l'adjoint au maire, à l'époque de Clichy-sous-Bois, est aujourd'hui ministre délégué à la ville, Olivier Klein. Vous rappelez ce service d'ordre musulman, ces 60 hommes vêtus de blanc, barbus, qui s'interposent entre les forces de l'ordre et les émeutiers.
Oui, et ils réussissent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec les médiateurs de la ville, avec les élus, il n'y avait pas qu'eux, ils réussissent à restaurer une forme de calme. Il faut faire attention, c'était en 2005, c'était avant les attentats, c'est-à-dire que par ailleurs, la société française a connu d'autres chocs entre-temps, et notre lecture de ces événements, elle est évidemment complètement différente. On était dans un contexte qui n'avait strictement rien à voir de ce point de vue-là.
Et il y a beaucoup de choses qui ont changé d'ailleurs, suite aux attentats. Il y a quelque chose qui revient dans la bouche d'Olivier Klein, dans l'un de vos papiers d'il y a quelques jours, mais dont vous parliez déjà en 2005, en disant électoralement, de toute façon, il y a deux poids, deux mesures. Les banlieues, les quartiers votent relativement peu, donc nous rapportent relativement peu. En revanche, les discriminer, les stigmatiser, ça c'est payant d'un point de vue électoral. Et ça l'est d'autant plus depuis les attentats.
C'est certain, on est malheureusement dans une histoire longue d'abstention des quartiers populaires, et je ne vois aucun indice d'évolution. Et donc, d'un strict point de vue politique, en fait, de façon cynique, on peut considérer que ça ne rapporte jamais, et de fait ça ne rapporte rien en termes de résultats électoraux, en termes de masse de voix quand on veut devenir président de la République, là où le fait de s'appuyer sur les violences, les émeutes urbaines, sur la représentation du jeune de banlieue comme étant la figure de la classe dangereuse, c'est très rentable électoralement aujourd'hui, évidemment.
Ça l'est rentable médiatiquement aussi ?
Je sais pas vous dire. Non, je sais pas, parce que par ailleurs, c'est des sujets qui intéressent tout le monde. C'est des moments de tension extrême, donc je crois pas que ce soit le sujet d'un point de vue médiatique.
Non, la vraie question quand même, c'est comment couvrir ces violences sans les dénaturer.
Alors c'est extrêmement compliqué. C'est qu'il faut à la fois raconter ces violences, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faut surtout pas masquer, il faut surtout pas dissimuler ce qui se passe. Moi, je pense que il y a eu une bascule ces derniers jours. C'est-à-dire qu'au début, on est sur un mouvement d'émeutes urbaines liées à la mort de ce jeune homme à Nanterre. Et il y a un moment où ça vrille, et il y a un moment où ça n'est plus seulement cet aspect-là, quand il y a des pillages, quand il y a des attaques de services publics, des attaques contre des élus.
C'est toute la question du reporter, Luc Brunner, c'est-à-dire le reporter qui est seul sur le terrain alors qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau national, dans plusieurs villes. Il y a quelque chose comme ça, une question de la focale, longue focale, courte focale, gros plan, plan serré, plan large. C'est-à-dire comment, en racontant d'un point de vue individuel avec simplement deux yeux, on raconte un phénomène global.
C'est une super question, c'est toute la difficulté du reportage. Ouais. Alors pour le coup, moi j'ai passé une nuit à Nanterre, j'ai passé beaucoup de temps à Aulnay, je suis allé à Bondy, je suis allé à Villepinte, je suis passé à Drancy, enfin j'ai essayé de voir plein de temps différents. J'ai passé du temps à Bondy, j'ai assisté à une scène absolument incroyable de pillage du Conforama où ça avait été annoncé sur leurs réseaux sociaux et où j'ai vu des affrontements avec la police, avec le RAID. Donc on est quand même sur des images extraordinairement fortes. Et ensuite j'ai vu une noria de voitures qui venaient se garer devant le Conforama pour remplir les coffres de machines Nespresso, d'écrans plats et de ventilateurs. Et donc pour dire qu'on est dans un moment et dans un mouvement extrêmement difficile à raconter, puisqu'il y a une cause qui est évidente et qui est extrêmement grave, qui est liée à la mort de ce jeune homme. Et puis après, il y a des moments où ce mouvement initial peut se transformer. Et là, on était dans du pillage, tout simplement, qui n'avait plus rien à voir avec l'histoire immédiate.
Voilà. Revenir à Aulnay-sous-Bois 18 ans après 2005. 2005. Ce papier que vous publiez le 30 juin au matin, vous assistez à un restaurant, le Wok & Roll, qui brûle. Et vous dites, c'est exactement sur cet emplacement que cohabitent un Quick et un KFC, où se trouvait auparavant une concession Renault, dont l'incendie spectaculaire pendant les violences de l'automne 2005 avait frappé les esprits et durablement dégradé l'image de cette ville de 800 000 habitants.
Alors, pas 800 000, 80 000 habitants.
80 000 habitants.
C'est effectivement une ville dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps à l'époque, pour la raison exacte que vous décrivez, c'est-à-dire pour être capable de travailler correctement dans ces terrains, il faut passer beaucoup de temps. Et donc j'avais choisi cette ville parce qu'à l'époque, en octobre 2005, je n'avais pas réussi à y entrer. Donc je m'étais dit, ça veut dire qu'il y a un défi,
dangereux.
Parce que trop dangereux les premiers soirs. Et je m'étais dit, je vais passer du temps dans cette ville. Et j'y ai passé des dizaines de jours et de nuits de reportage. Et c'est vrai que pour moi, c'était une sorte d'évidence d'y retourner, parce que je m'étais dit que j'allais retrouver des interlocuteurs que je connais, ce qui a été le cas. Et ça me permettrait d'essayer de tracer, voilà, ce qui était un représentant, un porte-parole à Clichy à l'époque. Et ça me permettait d'essayer de comprendre le fil entre 2005 et aujourd'hui, et de comprendre les effets de génération. Moi, je suis fasciné par l'idée de me dire que ceux qui avaient 18 ans à l'époque, ils ont 36 ans aujourd'hui, ils sont peut-être les parents des adolescents qui ont 14, 15 ans. Et donc, voilà, je trouve que sur ces sujets, plus que jamais, il faut de l'histoire. Il faut de l'histoire longue, il faut passer du temps, il faut tenter de comprendre dans la longueur. Et donc, revenir sur un terrain comme ça n'est, vous avez raison, qu'un reportage, qu'un lieu. Mais on n'a pas tellement le choix. Il faut essayer d'être en profondeur sur ces territoires.
Merci beaucoup, Luc Bronner. On lit vos papiers dans Le Monde.
Merci, Sonia De Villers.